3 mai 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers, Nicolas Cloutier et Martin Thériault. On est encore avec vous pour vous parler des prospects. Comment ça va les boys?
Ça va super bien.
Ça va très 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 bien. Puis je pense qu'on est encore sur les vapes, si tu veux, de samedi soir. Je me trompe-tu, Anthony?
Ah non, c'est ça. Samedi soir, c'était quand même assez spécial. Si nous, ça va bien. Imaginez comment ça va bien pour Cole Caulfield qui a finalement touché la cible. Il a marqué le but gagnant en prolongation pour donner la victoire aux Canadiens. Un moment quand même assez spécial.
Écoute, faut croire que j'étais pas fou, les gars. Hein?
Ben, honnêtement, je suis pas 100% prêt à te donner complètement raison. Mais il faut dire qu'il est bon, effectivement. Mais ça... c'est pas une surprise pour personne. T'sais, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit dangereux. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit menaçant. Puis je veux pas commencer déjà dans le négatif. Là. Restons sur le positif. Là. Il l'a très bien fait et marqué le but en prolongation. Un but que le Canadien avait besoin.
Mais est-ce que c'est une nuisance défensivement et est-ce qu'il fait des erreurs sur la patinoire? Moi, personnellement, je répondrais non aux deux questions.
Mais il y a quand même certaines lacunes. On le voit à certaines occasions qui est pas... mais je ne sais pas si c'est le style
on tombe
de
un
jeu
peu dans suranalyse aussi parce qu'on a tout le temps, je veux dire, les yeux sur Caulfield quand il est sur la patinoire. Mais moi, si je regarde dans son rôle d'ailier, dans son positionnement en zone défensive, je trouve que Tony Granato, ça paraît. Là, il est super bien préparé pour cette chance-là. Et moi, je lis un peu partout, souvent les gens qui vont voir le verre à moitié vide et sans être chauvin, évidemment. Ah, écoute, son premier but, Caulfield, on sait bien, tout un jeu de Petrie, c'est un tap-in. Là. Mais honnêtement, les gens qui disent que le but de Caulfield, c'était juste un tap-in, ne connaissent pas le hockey parce que si tu regardes la séquence de A à Z du début à la fin, tu vois Caulfield qui a remarqué que Tim Stützle faisait dos au jeu, et tout de suite part en accélération et saute dans l'ouverture. Ça, c'est la marque d'un vrai marqueur de but. Un requin qui flaire le sang à la moindre ouverture, c'est ça que j'ai vu de Cole Caulfield. C'est son instinct offensif qui est très aiguisé. Là. Si on regarde vraiment du début de la séquence, là, regardez-là, là. Il va aller faire son petit tour de la glace, il voit tout de suite qu'il y a une ouverture, bang! Fonce au filet, se pose pas la question, la rondelle est dans le fond du but. Là.
Non, ça c'est sûr. Là-dessus, je te donne 100% raison. Il a tiré avantage du fait que les joueurs des Sénateurs étaient fatigués. Là, la fameuse stratégie de Dominique Ducharme de faire bouger la rondelle pour épuiser l'adversaire pour après ça attaquer le filet. Donc ça je lui donne un crédit à 100%. C'est plus, peut-être parce que c'est tout simplement qu'il s'adapte à un nouveau style de jeu, mais parfois... principalement dans les premières rencontres, surtout contre Toronto, je le trouve un peu perdu. Des fois, il tentait d'en faire peut-être un peu trop. Ça, je pense que c'est normal parce que c'est un jeune joueur.
Oui. Mais moi, je pense que la mesure, pour l'avoir vu souvent jouer à Wisconsin, je pense que la mesure que tu dois vraiment vérifier dans le cas de Caulfield, à savoir si son jeu va dans la bonne direction, c'est s'il obtient les chances de marquer. Et moi, je l'ai dit depuis le début, Caulfield, ça me dérange pas qu'il ne marque pas de but en partant. S'il obtient les chances de marquer, c'est correct, les gars. Et si je regarde le nombre de tirs qu'il a envoyé au filet et le nombre d'occasions qu'il a obtenu, ben, je trouve ça extrêmement encourageant. Je pense que c'est sûrement l'attaquant qui en a obtenu le plus et c'est pas un gars qui a eu un temps de glace astronomique non plus. Il a été tout le temps dangereux. Bon, peut-être que la rencontre durant laquelle il s'est le moins illustré, c'est peut-être celle contre les Maple Leafs, mais si on regarde les autres matchs, il a toujours été dangereux, il a toujours obtenu sa part d'occasion, il a tout le temps été dans les endroits privilégiés. Donc, je savais, moi, dans un certain sens, qu'il allait finir par marquer parce qu'il obtenait ses occasions. Et Cole Caulfield, tu ne peux pas lui donner trop d'occasions, il va finir par débloquer, il est simplement trop bon. Alors, c'est ça qu'on a vu.
Oui, mais je pense que c'est pas une surprise pour personne là, que Caulfield marque des buts. Puis ça
non, mais il n'aurait pas marqué des buts que j'aurais été parfaitement à l'aise avec son jeu. C'est juste ça que je veux dire.
Là. Non, je comprends très bien. Puis je veux dire, tout le monde s'attend à ce qu'il marque et il va marquer. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est plus avant son but contre les Sénateurs, je trouvais qu'à quelques occasions, il forçait le jeu un petit peu. Parfois, un peu à la Brendan Gallagher, va tenter le tir alors qu'il y a peut-être d'autres. Puis ça, en même temps, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que souvent, un jeune joueur qui monte dans la Ligue nationale va chercher à faire des passes, va chercher à distribuer la rondelle, à être généreux et va prendre la demi-seconde de trop pour prendre sa chance. Lui, c'est complètement le contraire. Et là, la rondelle, il veut lancer, il veut marquer. Ben, c'est correct. Mais je pense qu'il y avait peut-être un petit sentiment de frustration parce que c'est sa quatrième rencontre. Il voulait prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer au hockey. Puis je ne sais pas si Marty t'a senti ça un peu aussi de... il était sur la glace, il veut marquer, mais parfois, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur jeu à faire de lancer la rondelle.
Non, ben tout à fait. Puis tu sais, je comprends, Nick, là, ça fait 2 mois que tu nous dis que tu veux le voir à Montréal absolument. Et là, tu as raison. Félicitations, Nick, je te félicite.
Mais, non, mais c'était pas pour ça, là, je disais ça. Je tirais la pipe, là. Mais,
non, mais écoute, Puis oui, il montre des belles choses. En défense, tu sais, t'as raison. À deux ou trois reprises, je vous ai mentionné, les gars, que j'étais un peu dérangé par le fait qu'il tentait de tricher derrière les défenseurs et que je disais constamment, dans la LNH, il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, et je sais qu'il l'avait fait avec le Rocket de Laval lors de son premier match. Puis là, je disais, les gars, il faut qu'il corrige ça. Il ne peut pas faire ça dans la Ligue nationale.
Breakout en groupe, là, je suis d'accord avec toi.
Exact. Ça, honnêtement, j'ai été très, très, très heureux.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Je ne l'ai pas vu, ça, dans les nationales.
C'est ça. Là, depuis dans les quatre derniers matchs, visiblement, et le temps qu'il a eu en entraînement avec les Canadiens, j'ai l'impression que ça lui a peut-être bénéficié, etc. Ça, c'est très, très, très satisfaisant à ce niveau-là. Et on le voit, Caulfield, non seulement c'est un joueur avec de la hargne et du caractère, c'est également un joueur qui me semble assez intelligent également. C'est pas pour rien quand je disais, les gars, amenez-le avec le Rocket de Laval 10 ou 15 rencontres. 10 ou 15 rencontres, c'est pas beaucoup, là, les gars. C'est peut-être un mois, là. Mais par la suite, là, ils allaient être capables d'arriver. Oui, il allait avoir des choses à travailler dans la Ligue nationale. Mais là, par la suite, ça allait prendre son envol. Et là, pour répondre à ta question, Anthony, par rapport à ce qu'il veut trop marquer, si, est-ce que ça apporte certains bémols, si tu veux, ben, j'ai tendance à être d'accord avec toi un peu. Tu sais, oui, il a des chances de marquer, mais puis c'est normal, c'est un marqueur. Puis dans la NCAA, c'est ce qu'il faisait. Il tirait à peu près de tous les angles. Et avec les gardiens qui sont moins bons, ben tu peux davantage prendre ta chance et ça risque davantage de se retrouver derrière le gardien adverse. Là, dans l'ANA, je pense que sans dire qu'il faut qu'il arrête constamment de tirer, je crois qu'il doit choisir.
Ben, moi, je trouvais que c'était tellement rafraîchissant d'avoir un joueur chez les Canadiens qui n'hésitait pas et qui envoyait la rondelle au filet. Je trouvais ça bien d'avoir quelqu'un avec cette mentalité de tireur-là.
Non, je sais.
Puis oui, on parle des fois où il aurait peut-être dû faire une passe, mais moi, je me rappelle qu'il a pris un tir d'un angle très restreint, mais c'était un bon tir et ça avait donné une chance de qualité grade A à Philippe Dano.
Sur le corner le bas, quoi.
Oui, donc je veux dire, il y a des bénéfices aussi à tirer au filet quand tu as un tir de la qualité de Cole Caulfield. Moi, je pense pas que si t'es Dominique Duchamp, tu dois lui dire « Ah, écoute, essaie de penser à plus passer la rondelle, tu vas un peu dénaturer son style de jeu. » Il va s'adapter.
C'est pas ça du tout que je dis, Ding. Moi, c'est bon qu'il tire, puis on va pas le changer. C'est un marqueur, il va tirer. Ouais. Ça, il n'y a aucun problème. Il va falloir qu'il va l'apprendre avec les années. Là, je suis confiant qu'il va être capable de s'améliorer à ce niveau-là. C'est davantage de voir la situation devant lui. Il y a beaucoup de situations où le défenseur est très, très bien placé puis qu'il y a... l'option de tir n'est tout simplement pas là. Il serait mieux d'attendre 2 ou 3 secondes, de faire une passe ou tout simplement s'acheter du temps à changer les angles.
Ben, écoute, là, je sais qu'on ne parlerait pas de trop vouloir tirer, mais peut-être d'un manque de patience avec la rondelle parce qu'il y avait une certaine nervosité dans son jeu. Tu sais, le fameux poise qu'on appelle, et ça, je suis d'accord avec vous, les gars, au fur et à mesure qu'il va assimiler le rythme de la Ligue nationale, il va manipuler la rondelle plus longtemps parce qu'il est capable de le faire. On l'a vu avec le Rocket, on l'a vu dans la NCAA contrôler la rondelle. Il est capable de la contrôler, la rondelle, donc il va peut-être la garder sur son bâton il y a tellement pas de temps dans la Ligue nationale, mais tu sais, la fraction de seconde de plus qui va lui permettre de repérer une ouverture là, au lieu de prendre un tir dans le plastron du gardien. Là, je vous rejoins là-dessus. Là.
Exact. C'est ça, je pense qu'on dit un peu tous la même chose. C'est pas que je lui reproche nécessairement de lancer, c'est que parfois, il force le jeu puis on sent un peu de frustration dans le sens qu'il veut tellement marquer qu'il va peut-être prendre le tir un peu trop vite alors qu'il pourrait laisser le jeu se développer. Mais je veux vous montrer une séquence, là. Ça sera pas long. Là. Je suis pas encore hyper habitué avec cette application. Mais c'est un peu plus tôt, il a créé 3 chances de marquer sur la même séquence. Et moi, ce que j'ai bien aimé de ça, c'est c'est lui qui dirigeait le jeu. On le voyait, il est un peu partout. Puis là, regardez, je vous passe ça à l'instant. C'est dans le match contre les Jets. Là, ici, il intercepte la rondelle, tente de faire un jeu, ça va se retrouver sur le bâton de Toffoli. Mais regardez à quel point il est combatif. Oui, il est petit. Oui, on peut lui reprocher sa petite stature, puis c'est pas nécessairement le joueur qui va donner des mises en échec. Mais regardez-là, il a récupéré la rondelle, il va sortir du coin, il va obtenir des chances. Moi, c'est vraiment... le fait dévier la rondelle, s'en va dans le coin, récupère le disque, va feinter Morrissey.
Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'avant même de toucher au disque, il y a un plan... Il y a un plan dans la tête. Il sait ce qu'il va faire avec la rondelle. Il sait où ses coéquipiers sont positionnés. Il sait quelle zone il veut attaquer. Il fait pas de l'improvisation Cole Caulfield, puis on l'a vu là-dessus. Mais ce que je trouve encourageant, c'est qu'il utilise tellement bien son bas centre de gravité dans les endroits où il y a du trafic, où il va se frotter à des plus gros défenseurs. Donc, finalement, on voit que sa taille, c'est pas quelque chose qui l'indispose au plus haut niveau, là, même dans les endroits où ça brosse.
Non, exact. Puis tantôt, quand je disais qu'un jeune joueur peut être un peu intimidé de jouer dans la Ligue nationale, regardez-le bien derrière le filet. Là, il vient de remettre la rondelle à Suzuki. Il va se diriger de l'autre côté du filet et avec son bâton, il fait signe au défenseur. Envoie-moi la rondelle.
Ben oui, toi. Ouais.
Il va se placer pour la chance de marquer.
J'adore cette initiative-là.
Moi, c'est ce genre de choses-là. C'est ce genre de choses-là qui m'impressionne. Et là, encore une fois, le long de la bande, va sortir avec la rondelle.
Ben, il y avait deux gros joueurs des Jets squeezés contre lui. Il a réussi à faire un jeu, là.
Exact, pour finalement se retrouver dans l'enclave. Et là, il va toucher le poteau, là. Donc, il est très menaçant. Puis, on s'entend, là où est-ce qu'il faut que je te le donne, Nick, le Canadien de Montréal est beaucoup plus dangereux avec Cole Caulfield dans sa formation. Ça, il n'y a aucun doute. Je ne sais pas si à long terme, ça va être la bonne chose pour le joueur, mais si on regarde au niveau de l'équipe, c'est pas un hasard que le Canadien se replace et que Cole Caulfield soit dans la formation. Il génère un vent d'enthousiasme et de fraîcheur, puis ça, c'est rafraîchissant. Est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas, mais je suis pas forcé de l'admettre, là, il est vraiment rafraîchissant.
Je vais vous présenter le débat un peu à deux volets. Est-ce qu'il perdrait du temps dans la Ligue américaine en ce moment? Ben, pas forcément, mais je pense pas qu'il perd du temps en ce moment à Montréal non plus. Alors moi, si j'avais l'option, tu sais, ben puis là, la question se pose pas vraiment, mais genre je le garderais à Montréal. Je le garderais à Montréal parce que s'il est capable de suivre la cadence, s'il ne nuit pas à son équipe, s'il est capable d'avoir un impact, ben c'est là qu'il va apprendre le plus, là.
Non, c'est clair. C'est juste que je regarde son temps de glace depuis qu'il a commencé. 15 minutes 40 lors de sa première rencontre, et là, ça ne fait que diminuer moins de 14 minutes. 10-59 lors de son troisième match et contre les Sénateurs, 11-41, dont le chiffre en prolongation. Donc, ça a retourné autour de 11 minutes. Donc,
mais à la fin, on a vu que Ducharme a commencé à couper son banc là, contre les Sénateurs. Puis Caulfield a sauté quelques présences. Ça m'a laissé un peu incrédule, mais après, il l'a utilisé en prolongation. Donc, il s'est un peu racheté de cette façon-là. Moi, je suis à l'aise avec un 13-14 minutes. C'est sûr que si ça descend en bas de 13 minutes, ben, ça me chicote un peu. Mais encore là, j'aime quasiment mieux avoir Caulfield pendant 10-11 minutes dans ta formation en série, par exemple, que ne pas avoir cet arme dans ta formation du tout dans des situations critiques. Là.
Mais moi, Anthony, je te rejoins entièrement là-dessus par rapport au temps de jeu de Caulfield. Et honnêtement, c'est une des raisons pour laquelle moi, je préfère le faire jouer dans la Ligue américaine. Et c'était mon point de vue depuis un ou deux mois, les gars, de lui donner du temps de glace le plus possible pour que lorsqu'il va s'amener à Montréal, il va être en pleine confiance.
Sa confiance est pas mal dans le tapis, je te dirais, Marty. Là. Je veux dire, il a tout fait cette année. Il a connu l'année de sa vie dans NCAA. Tu ne pourrais pas avoir un Caulfield avec un plus haut niveau de confiance qu'en ce moment. Là.
Des niveaux de confiance. Moi, ce que je te parle, Nick, c'est qu'il a un but en 4 rencontres présentement. Moi, ce que je voudrais le voir, c'est le voir pas seulement au niveau de l'NCAA, qui est un calibre un petit peu moindre que la Ligue américaine. Là, vraiment, au niveau de la Ligue américaine, contre des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, de prendre son temps, d'avoir plusieurs buts à plusieurs matchs de suite, avoir plus qu'un point par match. C'est drôle que là, les Canadiens de Montréal, après deux matchs seulement avec le Rocket, se décident à l'envoyer dans la mêlée tout de suite, alors que tous les espoirs repêchés dans les environs de Caulfield, on a préféré être patient, les envoyer dans la Ligue américaine. Matthew Boldy, j'ai vu quelques séquences avec le Wild de l'Iowa, il joue très très bien, c'est peut-être le meilleur joueur présentement de ce côté-là. Est-ce que le Wild le rappelle parce qu'ils sont en panique et qu'ils veulent absolument que les partisans le voient? Non, on préfère lui faire prendre son temps dans la Ligue américaine, qu'il développe quelques petites imperfections. Et lorsqu'il... Et savez-vous quoi, les gars, je suis un fan du Wild, j'aime bien mieux qu'il prenne son temps là-bas et qu'il se développe. Cam York du côté des Flyers de Philadelphie, même chose. Est-ce qu'ils en auraient besoin en défense présentement? Fort probablement.
Mais est-ce que tu veux l'amener dans un environnement comme celui des Flyers en ce moment? La question se pose quand même.
Ben, attends, par contre, là-dessus, je te ramène le point. Le Canadien jouait à son plus mal. Il n'y avait rien qui fonctionnait à Montréal. Et là, on amène Caulfield avec une étiquette « Viens sauver le club ».
C'était vraiment pas un bon casting. C'était vraiment pas un bon casting et je suis d'accord avec toi, on l'a un peu amené par défaut, mais est-ce que c'est une catastrophe en ce moment? On peut pas dire ça non plus.
Non, 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 pas du tout.
Apprend, puis c'est très, 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 très critique pour son développement, les matchs qu'il est en train de disputer au plus haut niveau en ce moment.
Non, je suis d'accord, c'est juste que là où est-ce que je rejoins un peu vos deux opinions dans le fond. Il a été amené à Montréal, slash par défaut, à cause des blessures. Le Canadien veut participer aux séries, Drouin out, Tatar out, Byron out. Ça commence à en faire là, des alliés gauches.
Ouais, ben, je peux comprendre le Canadien de faire appel à Cole Caulfield dans ce contexte-là. Est-ce que c'était la solution numéro un? Non. Et même que du charme, je pense que ça a tout pris en fait pour qu'on finisse par l'intégrer. Puis chaque jour que Caulfield faisait des buts sensationnels à l'entraînement, ben ça ajoutait de la pression à l'organisation. Puis les partisans s'indignaient, les partisans s'impatientaient. Donc ça devenait un peu une catastrophe au point de vue des relations publiques pour le Canadien. Donc je pense que le Canadien en premier lieu voulait pas intégrer Caulfield tout de suite, ben, il voulait le faire jouer dans la Ligue américaine. Puis là, dans la Ligue américaine, il y a une espèce de chamboulement là, du calendrier. C'est ça, en fait, qui a fait en sorte que Caulfield ait été rappelé en premier. On voulait lui donner de l'entraînement parce qu'il ne pouvait pas en avoir avec le Rocket. Et là, de fil en aiguille, il y a plusieurs choses qui sont passées. Donc, je pense pas que c'était la stratégie numéro un du Canadien non plus.
Non, parce que c'est ça, parce que je pense que la décision a été prise en fonction de l'organisation et non en fonction du joueur. Est-ce que ça veut dire qu'à long terme, ce ne sera pas une bonne décision pour le joueur?
Ben, c'est ça.
Ça reste à voir. Ça, on le sait pas.
Je suis pas prêt à dire qu'on se crappe en ce moment.
Exact,
c'est tout même. Là.
Exact. Tout ce que je dis, c'est que la décision a été prise en fonction de l'organisation. On a besoin de changement. Ça ne fonctionne plus. On va l'intégrer dans la formation. Et là, absolument, ça fonctionne. Donc, tant mieux. Et tout le monde est content. Puis, je veux dire, il n'y a pas un fan des Canadiens de Montréal qui ne s'est pas levé de sa chaise quand Caulfield a marqué contre les Sénateurs. Il n'y a pas personne qui s'est dit « Ouais, mais moi, j'aime mieux qu'il reste en bas. » Non, c'est sûr que non. Mais est-ce qu'à long terme, ce sera la bonne décision? Ça reste à voir.
Mais par rapport au but de Caulfield, là, je vais apporter un bémol un peu là-dessus. C'est un très, très beau but, j'y enlève rien. Mais il y a une différence entre son jeu à 3 contre 3 et son jeu à 5 contre 5. Moi, les améliorations que je dis qu'il doit apporter, c'est à 5 contre 5. Écoutez, les gars, la prolongation a commencé, puis sans blague, les gars, là, j'étais tout seul dans mon salon, là. Il n'y a personne pour confirmer, mais je vous le dis. J'ai tout de suite dit, là, vous pourriez amener Caulfield, amenez-le sur la patinoire, amenez-le avec un Jeff Petrie et un Jesperi Kotkaniemi. Je suis certain que ce trio-là va faire des flamèches. Pourquoi? Parce que Cole Caulfield, comme Nick l'a dit, dans les rangs universitaires, sa force, ça a toujours été de trouver l'ouverture, de se cacher des adversaires. Et son but, c'est exactement ça. Il est passé derrière Tim Stutzla, qui ne l'a pas vu passer. Puis s'est retrouvé seul devant le filet. Puis là, oui, Jeff Petrie a fait un très beau jeu, mais il faut également donner le mérite à Caulfield là, qui a su se démarquer de son couvreur. Et il y a une séquence plus tôt dans le match contre les Sénateurs qui a eu la même chose. Et Caulfield est sorti du banc, puis a pris plus de temps que prévu, a fait une espèce de détour en zone 1, si on veut. A échappé à la couverture de Shane Pinto et ça a fait en sorte que ça a amené probablement à sa meilleure chance de marquer de la rencontre. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, l'espèce de passe déviée qui finalement, Philippe Gustafsson a fait un beau harponnage du bâton.
Oui, je m'en rappelle. Oui.
Mais tout ça pour dire qu'avec les qualités qu'il a montrées dans la dernière année, ça, 3 contre 3, il n'y a aucun problème. Il est déjà de calibre Ligue nationale. Je dirais même que c'est probablement le meilleur joueur des Canadiens en ce moment dans cette facette-là.
À 3 contre 3, oui.
Mais c'est à 5 contre 5 avec des couvertures défensives devant toi, beaucoup plus étanches qu'il a besoin de travailler davantage. Et pour la confiance, présentement, de marquer des buts comme Cole Caulfield est capable de le faire. Pas pour être un joueur de la Ligue nationale, les gars. Je veux qu'on s'entende là-dessus. Mm-hmm. Je pense que c'est un gars de la Ligue nationale. Il l'a montré, même que défensivement, il a probablement été meilleur que je pensais. Et c'est vraiment... Je veux pas seulement que Cole Caulfield joue dans la Ligue nationale, je veux qu'il soit un excellent joueur dans la Ligue nationale.
Puis dans tout ça, là, puis le point de Marty est parfaitement valable aussi. Je pense que rendu là, c'est vraiment juste une question d'opinion. Mon opinion est aussi bonne que la tienne. J'aimerais quand même qu'on souligne que... Et les Granatos, c'est toute une famille de hockey. Hein. On voit Don Granato qui est en train de faire un bon boulot avec les Sabres, là, une équipe qui allait nulle part. Mais je pense qu'il faut souligner le travail que Tony Granato a fait étroitement avec Cole Caulfield au cours des 2 dernières années. On voit que c'est un gars qui s'est investi d'une mission de préparer son joueur pour la Ligue nationale et ça porte ses fruits en ce moment. T'sais, c'était quand même pas évident comme projet. Cole Caulfield, la première année dans la NCAA, c'était pas le joueur qui était le plus mûr. Il y avait quand même beaucoup d'imperfections dans son jeu. C'était pas le joueur le plus costaud, pas le joueur le plus grand. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire et tu vois que le travail porte ses fruits en ce moment-là.
Vous pourrez voir Caulfield en action ce soir contre les Maple Leafs de Toronto à voir s'il aura Une meilleure rencontre, là, soyons honnêtes, c'était peut-être son pire match là, des quatre là, contre les Maple Leafs. Donc, on verra s'il sera capable de se démarquer. Autre Caulfield, il y a d'autres jeunes qui sont présentement en action là, dans le tournoi des moins de 18 ans, dont le Canada qui va très, très bien remporter ses quatre parties. Plusieurs joueurs impressionnent, plusieurs joueurs qui sont projetés, repêchés au premier tour lors de l'enquête qui devrait avoir lieu en juillet prochain. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué avec l'équipe canadienne? Quel joueur là, qui vous a le plus surpris par son talent et par ses prouesses?
Surpris, c'est difficile à dire parce qu'on savait que c'était un joueur exceptionnel, mais moi, je dirais que Shane Wright, là, wow! Je savais qu'il avait un bon tir, là, mais ouh, ce tir-là, il est incroyable, mesdames et messieurs.
Surtout après avoir passé plus d'un an sans jouer au hockey, c'est exactement, surtout ça qui est impressionnant. Exactement.
Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est ça. C'est Shane Wright. Il volait sur la patinoire. Ça a été le joueur le plus dominant, je trouve, notamment lors de la rencontre contre la Suède. Là. Écoute, l'espèce de varlope que la Suède a encaissé, personne ne s'attendait à ça. Là. C'est absolument ridicule.
Ben, surtout que la Suède, ils ont quand même remporté 3 de leurs 4 parties. Donc, ils sont pas. C'est pas de mauvaise formation. Mais là, en entrée de jeu contre le Canada, une défaite cuisante de 12 à 1. Et lors de cette rencontre-là, Shane Wright était partout sur la patinoire, présentement compte 5 buts en 2 parties, seulement 2 matchs. Là, on l'a laissé de côté par précaution. Là. On n'a pas vraiment plus de détails à ce niveau-là. Mais oui, Shane Wright, qui, selon plusieurs, devrait sortir top 5, sauf que ce sera lors de l'édition 2022. Donc, pas le prochain encamp, mais bien l'autre d'après.
Mais pour apporter un bémol par rapport à la Suède, là, tu mentionnais, ils ont quand même remporté 3 de leurs 4 rencontres. Il faut dire que le groupe du Canada n'est pas très relevé, si on veut. Là. Les victoires de la Suède, essentiellement, c'est contre le Bélarus, la Suisse et la Lettonie. Donc, c'est peut-être pas les... Le groupe B, le groupe des Américains, est davantage relevé là, à ce niveau-là.
Ouais. La Suède, honnêtement, là, je pense pas que ça a à voir avec le niveau de talent de l'équipe. J'ai vu une équipe qui s'est vraiment pas présentée, qui était pas prête. Il n'y avait aucun synchronisme, aucune exécution. Et les gars, c'est là que je disais que c'est tellement dangereux de se baser sur un petit échantillon parce que, honnêtement, si je me fiais juste à ce que j'ai vu de Simon Edvinson dans ce tournoi-là, là, je veux dire, c'était épouvantable. Là. Honnêtement, il avait de la misère dans ses duels en 1 contre 1. Il se faisait constamment déjouer. Son positionnement n'était pas adéquat. Son niveau de compétition non plus. Je voyais pas le prochain Victor Hedman, mais pas du tout. Je sais pas ce que tu en penses, Marty. Là.
Ben écoute, c'est. Comment je dirais bien ça? Quand je regarde un match, oui, tu peux dire bon, il y a une mauvaise ou il y a un bon match, mais dans les attitudes du joueur, dans les aptitudes de ce qu'il montre un peu, tu es quand même capable de voir certains.
Mais oui, le talent était évident. Le talent était évident, mais la structure dans son jeu était peut-être pas là. Et ça, tu me dis que c'est peut-être quelque chose qui se corrige. Je suis d'accord, il en avait peut-être une mauvaise dans le corps.
Non, mais je veux davantage dire que même si tu joues mal, il y a certains détails parfois que tu peux regarder chez le joueur. Et là, tu dis ouais. Ah, ok, ça, c'est intéressant. Moi, honnêtement, Edvinson contre le Canada, je ne regretterai pas vous dire qu'il a bien joué. Là. Ils ont perdu 12 à 1. Là. Mais il y a certaines choses que j'ai quand même bien aimées davantage que d'autres défenseurs de la Suède. J'ai quand même la rondelle, avait tendance à se porter à l'attaque davantage. Et ça, je n'ai pas nécessairement détesté ça.
Oh, ouais.
Avec toi, là, défensivement, il en a arraché. Mm-hmm. Puis on verra dans la ronde, dans les quarts de finale et les demi-finales. Là. Mais ce côté-là de bouger la rondelle, plutôt, m'a pas nécessairement.
Mais vois-tu, je suis d'accord avec toi parce que offensivement, j'ai vu des flashs et j'ai vu que, tu sais, c'est pas Philippe Broberg. Là. Il y a des meilleurs instincts offensifs que Broberg, selon moi. Mais comme Broberg, il y a la même espèce de mobilité qu'on devrait pas retrouver chez un défenseur de cette grandeur-là. Ça, c'est franchement impressionnant, je trouve.
Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose chez Edvinson, par contre, puis je vous le dis, ça fait un an que je le regarde jouer puis je me pose la question à tous les matchs, etc. Il montre des belles choses, montre des aptitudes offensives. C'est un corps arrière en avantage numérique, bouge très bien la rondelle. Il y a toujours quelque chose qui me chicote. Je me questionne constamment à savoir, est-ce que c'est un défenseur de la Ligue nationale? Est-ce que c'est juste transposé? Ça, c'est encore mon questionnement. Tu sais, des joueurs, à la ligne bleue, en passant par-dessus, dans la Ligue nationale, il ne peut pas faire ça. Ça ne fonctionnera pas. Puis en ce moment, je suis en train de me poser cette question-là. Et vous regarderez ses statistiques, Simon Edvinson, on en parle comme un défenseur offensif qui bouge la rondelle. Là. Puis ses statistiques offensives, même à Vasteras, en Alsvenskan, c'est pas fameux. Donc, est-ce que tu veux investir sur un défenseur qui ne produit pas, même si
moi, je peux répondre à ça, Marty. Souvent, là, quand je me demande, quand je vois un joueur, je voyais Matthew Barzal dans le junior, il faisait des feintes extravagantes là, que tu dis, ah, ça va jamais se transposer dans la Ligue nationale. Puis il y a plusieurs équipes, justement, qui avaient levé le nez sur Barzal à cause de ça. Alors, souvent, la question que je me pose, c'est ça me dérange pas si le joueur a un bon hockey IQ. Parce que si le joueur a un bon hockey IQ, il va trouver le timing pour faire ça, le bon timing pour le faire. Il va réussir à s'adapter au plus haut niveau. Il va trouver ses moments propices à le faire. Là, après, s'il n'a pas un bon hockey IQ, ben, le joueur va essayer les mêmes tours de magie qu'il essayait contre des défenseurs inférieurs dans le junior, et ça ne va pas du tout fonctionner. Il ne va pas le faire au bon moment durant un match. Il va avoir l'air fou. Alors, moi, je pense que ce qui est vraiment important à identifier chez un joueur qui est spectaculaire, qui fait du fla-fla sur la patinoire et qui profite d'une compétition qui est inférieure, c'est son intelligence et son sens du jeu.
Mais ça se corrige. Chez Sergachev, quand il a commencé dans la Ligue nationale, il l'attendait à la fin de 3 à la Ligue bleue. Il a été victime de quelques revirements. Puis ça, justement, si tu as moindrement un peu d'intelligence, c'est quelque chose que tu peux retirer de ton jeu ou que tu peux faire à un moment qui est plus opportun. Ça, je pense que ça peut se corriger quand même assez facilement.
Tu sais, ça se travaille, mais moi, selon moi, l'intelligence du jeu, comprendre le match, là, c'est probablement, je dirais, avec le coup de patin, la chose la plus difficile.
Ben moi, je pense que c'est plus important que le coup de patin. Et c'est, et comme tu l'as dit, c'est assez inné. Et je suis pas d'accord pour. C'est pas ça que tu es en train de dire, mais je suis pas d'accord pour dire que ça se travaille pas, le sens du jeu et l'intelligence. Mais il y a une grande partie de ça qui est inné. Et bien, il y a une grande partie de ça aussi qui dépend de la volonté du joueur à travailler sur sa game, à regarder de la bande vidéo.
C'est surtout que c'est ça. C'est surtout que c'est plus difficile. Tous les aspects se travaillent. Mais c'est beaucoup plus difficile de travailler un sens du jeu, de savoir comment... Parce que, comme vous le dites, les gars, si le joueur est défensif, qu'il n'attaque pas, puis que c'est complètement inné dans sa tête, comment tu peux lui enseigner, OK, va marquer des buts? T'sais, on parlait de Caulfield, là. Il n'y a personne... On ne peut pas enseigner un joueur à n'importe qui à faire ce que Caulfield...
Ben, c'est ça. Est-ce que tous les joueurs auraient sauté dans l'ouverture comme Caulfield à 3 contre 3, tous les joueurs du Canadien? Ben non. Ben non. Lui, il l'a vu tout de suite, là. Si tu repères l'ouverture une fraction de seconde trop tard, là, ben, tout cela, il est peut-être collé sur toi au but, tu réussis pas à prendre la passe, tu marques pas le but. Ben, c'est ça, là, KQ.
Mais c'est les tendances également. Si t'es un joueur davantage porté à vouloir bien défendre ton territoire, à vouloir t'installer davantage, ben, au lieu de contourner un défenseur, essayer de le battre un contre un, hop, tu vas prendre ton temps et là, tu vas peut-être installer davantage, tu vas être beaucoup plus patient. Là. Et ça, je vous le dis, les gars, tu ne peux pas changer ça en 15 matchs. Là, soudainement, le joueur devient un joueur électrisant en attaque. Il y a certaines choses qui peuvent se changer, mais c'est plus difficile qu'un jeu défensif où là, c'est une question de positionnement et de placer son bâton au bon endroit. Là.
Avant le tournoi, Simon Edvinsson était placé dans le top 5 selon plusieurs experts. Là, évidemment, ça varie toujours un peu. Pensez-vous que ça va lui faire mal au point de sortir en deçà du top 5? Parce qu'on le sait, cette année, avec le peu de compétition, le championnat mondial des moins de 18 ans fait un peu foi de tout. Là. Est-ce que vous pensez qu'il va tout de même sortir top 5 lors du prochain
draft? C'est triste, mais c'est sûr que ça va lui faire mal. T'sais, c'est un tournoi qui est tellement scouté, qui est tellement regardé par les recruteurs. J'ai de la misère à ne pas le voir, pas glisser de façon dramatique, mais glisser un peu là, dans le classement.
Ben, non seulement ses performances pourraient l'affecter, comme Nick vient de le dire, c'est la seule compétition que les recruteurs ont pu voir pour comparer. Mais non seulement ça, mais je dirais que ses principaux... Cette année, là, on l'a mentionné la semaine dernière, là, il y a 7 ou 8 joueurs qui sont à peu près dans le même groupe, si tu veux. L'écart entre tous ces 7 ou 8 joueurs-là est très, très mince. Et là, malheureusement, il y a plusieurs joueurs dans ce groupe-là qui font mieux que lui présentement. Brent Clark a un très bon début de tournoi. Dylan Gunter montre de belles choses. Là, Luke Hughes n'est pas là, mais Luke Hughes, forcément, parce qu'il ne joue pas avec d'autres, joue moins bien, ben lui, ça l'aide pratiquement. Tout ça pour dire, les gars, qu'il y en a qui augmentent leur cote présentement, et Edvinsson, c'est moins convaincant, si on veut. C'est peut-être là que c'est un peu plus dangereux. Et là, on parle même pas d'un William Eklund qui, présentement, joue avec l'équipe nationale de Suède lors d'une compétition. Donc, je pense que c'est ça qui est peut-être plus compliqué dans son cas. Là.
Tu viens de le mentionner, Marty, Brent Clark, lui, c'est complètement l'opposé. La plupart des gens l'avaient autour de 8, 10, 12.
Marty l'avait premier, lui.
Et Marty l'avait premier. Et là, après le premier match contre la Suède, je voyais des gens qui le mettaient top 3. Bon, évidemment, Marty, je te lance des fleurs là, parce que tu le connais devant tout le monde. Là. Ouais. Brent Clark, tout de même, défenseur très solide, de 2 buts, 3 passes depuis le début du tournoi. Puis, moi, ce qui m'a fasciné le plus dans son jeu, c'est, et vous allez me dire que c'était à 7-0 contre la Suède, là, c'est vrai que même s'il se trompait, ça n'allait pas faire grand-chose, mais il y a un échec avant qui est sur lui, à 2 joueurs dans le coin, fait une feinte de passe, pivote sur lui-même, revient, autre feinte, revient, et les deux Suédois ne savaient plus où donner de la tête, et il n'a pas paniqué, il est très mobile avec le disque, il est extrêmement brillant, il voit bien le jeu se développer. Moi, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné depuis le début.
Ben, regarde, on en parlait de hockey IQ, là. On en parlait de hockey IQ. Brent Clark, là, c'en est un qui en a en Moses. Je pense que ça va être un excellent, excellent joueur dans l'NH. Et plus je regardais justement les matchs du Canada, plus je me disais, tabarouette que Marty était pas fou de le mettre premier au total. Hein. Je veux dire, c'était une très belle clairvoyance là-dessus, Marty, parce que, écoute, non seulement il est gros, il a des bonnes capacités, il a des bonnes qualités athlétiques, il patine bien pour son gabarit, mais il a le processeur, il a le sens du jeu, il suit, il va tout le temps appuyer l'attaque au bon moment pour amener une autre vague offensive, puis créer d'autres options. Honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu de son jeu. Là.
Je suis curieux de t'entendre, Nick, par rapport à quelqu'un qui aimait beaucoup Luke Hughes avant le tournoi et je sais pour avoir lu souvent tes textes que tu as déjà parlé.
J'aimais plus Owen Power que Luke Hughes, là, j'aimerais préciser. Mais j'aimais non, Luke Hughes pareil.
Mais je veux dire que tu l'aimais. Puis oh, je sais que tu as souvent parlé à Jack Han, qui est un peu un spécialiste, qui est surtout très spécialisé justement dans la technique de patinage. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé du en sachant que Jack Han, tu as peut-être pu t'instruire.
Ben, j'ai pas parlé à Jack Han de ça exactement, là, ben, par rapport aux espoirs qu'on a mentionnés, là, mais je t'écoute.
Non, mais je veux seulement dire que par rapport à ce qu'il a pu t'instruire, t'enseigner, par rapport à ce qu'il t'a dit, ça peut t'apporter une espèce de base au niveau patinage. Mais tu vois, pour dire, qu'est-ce que tu as trouvé du coup de patin de Brent Clark, toi, qui était un peu, qui se faisait un peu ramasser.
Ben, je sais qu'il y a, il y a un gros référendum sur le coup de patin de Brent Clark. Là. Je sais pas, là, c'est, ça va être entre le oui et le non. Là. Je sais pas qui va l'emporter, mais moi, je dirais que... Moi, je trouve que c'est... Des fois, on a tendance à suranalyser le coup de patin d'un joueur. Ça va l'affecter. Le coup de patin, c'est tellement quelque chose de technique. Hein. Il y a deux experts qui pourraient dire que la mécanique n'est pas bonne. Il y en a deux autres qui disent non, selon ma technique à moi. T'sais. Moi, honnêtement, ce que j'ai vu, c'est que moi, ce que je veux d'un coup de patin, c'est qu'il soit efficace. Et j'ai vu de l'efficacité dans son coup de patin. C'est tout ça. C'est ce que je demande. Bon, si esthétiquement, à l'œil, c'est pas tout le temps beau. Puis là, il y a un problème, des fois, les gars, qui. Les grands défenseurs ou les grands attaquants là, qui ont une foulée, qui ont une enjambée qui est plus longue, là, on a souvent tendance à questionner leur coup de patin parce qu'ils vont paraître plus lents, ben, surtout à la télévision, peut-être moins en vrai, mais ils vont paraître plus lents puis ils vont avoir besoin de moins d'enjambées pour parcourir la même distance, alors que tu vas voir un gars comme Raphaël Hardépinard qui va faire 5-6 enjambées, tu vas te dire, hey, il va tomber vite sur la patinoire, mais en réalité, il ne va pas si vite que ça. Ben, écoute, je pense que c'est un peu ça aussi, un des enjeux du débat, c'est qu'il a une longue foulée qui va le faire paraître plus lent, mais moi je trouve que sa strade est efficace puis il est assez mobile.
Et ça, tu as un excellent point, Nick. Puis là, où ce que je vais aller, c'est ce sont des joueurs de 17 ans. Il y a encore des joueurs là-dedans qui sont en pleine croissance. C'est des jeunes qui apprennent à maîtriser un corps qui était 3 ou 4 pouces plus petit il y a 5 ou 6 mois à peine. J'ai vu plein de gars, j'ai vu plein d'espoir là, qui, justement, un peu dans ce style-là, patinaient un peu tout croche à 17 ans. Arrive à 19, finalement, le coup de patin s'est amélioré. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient tout simplement à maîtriser leur corps.
C'est ça.
Est-ce que Brent Clark, c'est un peu ça? Peut-être. Là, je pense pas que c'est la même catégorie qu'un... Là, je vais revenir à des exemples passés, mais Martin Necas à 17 ans, c'était beaucoup ça. J'adorais ce que je voyais, mais son coup de patin était un peu bizarre parce qu'il n'avait pas encore pris l'entièreté de son gabarit. Est-ce que c'est ça pour Brent Clark?
Ben, j'irais jusqu'à dire que la plupart des plus grands vols au repêchage, là, ben surtout dans les années récentes, c'est des équipes qui ont pris une chance sur des gars dont le coup de patin était remis en question. C'est souvent ça qui est arrivé. Là. Je regarde par exemple un gars comme Mark Stone. Il y a plein d'exemples comme ça à travers la Ligue nationale.
Brent Clark, défenseur de 6 pieds 2 pouces, puis je rejoins ce que tu disais, Nick, là, c'est peut-être pas toujours élégant, mais c'est mobile et c'est efficace. Donc moi,
mais sa grosse force à Brent Clark, puis je suis content parce que présentement, au Mondial des moins de 18 ans, je vois exactement ce que je voyais en Slovaquie et même peut-être davantage. Qui m'enseigne en même temps, qui m'en dit un petit peu sur est-ce qu'un espoir peut travailler dans une ligue comme la Slovaquie? Ça, c'est intéressant. Mais pour revenir à son sens du jeu, là, son hockey IQ, justement, là, écoutez, c'est incroyable. S'il se retrouve avec la rondelle et qu'il n'y a aucune option, il va faire 2 ou 3 maniements de bâton, puis s'assurer que les lignes de passe changent. Il va changer complètement la ligne de passe et va être capable de trouver un joueur. Ouais. Direct. J'ai vu une passe, là, c'était ça. Là, il était à la pointe à droite. L'option de passe pour le joueur près du filet n'était pas là. a voulu faire croire aux autres joueurs qu'il allait passer davantage à droite. Ils se sont tous tassés. Et là, finalement, ça a donné une excellente chance de marquer une passe de bord en bord de la structure défensive. C'est ça qui est impressionnant dans son cas, là. Il y a beaucoup de comparaisons avec Brent Burns. Et honnêtement, je commence à trouver que c'est pas nécessairement
fou. C'est pas fou. Je dirais qu'il va être plus structuré défensivement que Brent Burns.
À la base, c'est pas un attaquant à 17 ans, donc ça l'aide.
Ouais.
Un joueur que je trouvais très fluide, très élégant sur la patinoire et qui est classé aussi très, très haut dans la plupart des listes, c'est Dylan Gunter. Tout a l'air facile sur la glace. Réception de la rondelle du revers le long de la bande, pas de problème. Coupe devant le filet, pas de problème. Un bon tir aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de son tournoi depuis le début?
Mais c'est pas que c'est le joueur qui ressort le plus comme un Connor Bedard ou un Shane Wright, là. Mais tout ce qu'il fait, c'est simple et ça fonctionne. Ça donne un haut taux de réussite. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Dylan Gunter. Je vous l'ai souvent dit, les gars, ce qui se transpose très bien à la LNH, c'est lorsque tu ne touches pas à la rondelle très longtemps, 2 ou 3 secondes. Écoutez, les gars, c'est même si tu te retrouves dans la LNH là, en 2 secondes, c'est pas vrai qu'un joueur, un Matthew Barzal, par exemple, peut se retrouver sur toi quand même. Ça reste un jeu extrêmement difficile à contrer. Et Dylan Gunter, c'est exactement ça. Il a une bonne vision de jeu, repère ses joueurs justement avec des petits gestes très, très, très rapides. Et comme tu viens de le dire, Anthony, il a un excellent lancer également. Ça, c'est prometteur pour la LNH. Là, ça peut devenir une arme redoutable en avantage numérique. Et notamment, il peut également alimenter ses coéquipiers avec des jeux justement qu'on ne voit pas nécessairement.
Ouais, non, mais je pense que Marley l'a dit, hein, c'est peut-être pas le joueur qui a été le plus spectaculaire sur la patinoire, surtout quand on peut voir tout ce que peut faire Connor Bedard et Shane Wright avec la rondelle notamment, mais c'est efficace, ça fonctionne, et moi je suis curieux de t'entendre, Marley, est-ce que ça a changé un peu sa position au classement dans ton classement en prévision du repêchage?
Mais pas vraiment. Là. Glenn Gunter, présentement, moi, je l'avais avant le tournoi, 4e, et ça ne change pas vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. Là. Brent Clark, je l'ai mentionné. Là, vous l'avez pratiquement dit à ma place. Ouais.
Il ne bouge pas de là, Brent Clark. Là. Ça serait fou de le descendre. Là.
Non, c'est ça. Pour moi, il demeure numéro 1. Ça, il n'y a aucun problème. Faut pas négliger ce que les autres joueurs ont fait durant la saison. Et là, parfois, c'est là que certains experts ou recruteurs vont tomber dans le piège. D'accorder plus d'importance à des joueurs qu'on a vus plus récemment. Faut pas oublier qu'Owen Powers, c'est un excellent défenseur de 6 pieds 6 pouces qui est quand même mobile pour sa taille et qui a un talent offensif. Donc,
absolument.
J'aime Gunter, mais de là à dire que je le place devant Owen Power pour l'instant, on verra que la ronde des médailles, là, ça se peut qu'il.
Moi, je le placerais certainement derrière Owen Power.
Ben, c'est ça. Puis par la suite, j'ai parlé de William Eklund tout à l'heure. William Eklund, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui a produit au niveau de la Ligue élite de Suède. C'est très difficile à cet âge-là de produire dans cette Ligue-là. Et lui, il l'a fait au point où il joue maintenant avec l'équipe nationale de Suède senior. Là. Pas la junior, la senior. Ça, c'est intéressant. Et il y a un haut niveau de compétition. C'est quelqu'un qui a un bon sens du jeu, qui se présente dans les coins. Donc, en raison de cet aspect-là, je vois mal Gunter le dépasser, mais Gunter, selon moi, est 4e, très certainement. Probablement que ça conforte sa position, alors que j'avais peut-être un doute avec Matthew Beniers, notamment, là, pour savoir qui serait le 4e.
Il y a plusieurs joueurs qui ont profité de ce tournoi là, pour faire augmenter leur draft stock, là, comme on dit depuis tantôt. Je pense que c'est un peu le cas de Mason McTavish, qui est vraiment dominant partout sur la patinoire. 5 buts, 7 points pour l'ailier. Génère énormément de chances de marquer. Est-ce que vous pensez, parce qu'avant le tournoi, je vous dirais qu'il était peut-être dans le bout de 15 selon certaines listes, pensez-vous qu'il est capable de se rapprocher du top 10?
Ben écoute, chaque tournoi, il y a tout le temps une espèce de joueur qu'on découvre davantage. Et pas nécessairement qu'on découvre parce qu'on a déjà vu jouer, mais qu'on apprend à apprécier davantage. Et moi, je me souviens, dans un des U18, un des joueurs les plus dominants que j'avais vu, ça avait été Tyson Jost. Ça avait énormément amélioré sa valeur au repêchage. Ça serait peut-être un peu le cas de McTavish en ce moment, là.
Mais ce que j'aime beaucoup, McTavish, c'est... Moi, je pense que ce gars-là va... Je dis pas qu'il est top 15 dans ma liste, mais je pense qu'il va sortir top 15 au repêchage, assurément, et peut-être même top 10. Il y a des qualités qui font saliver les recruteurs. C'est un gars avec un gros gabarit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au filet. Et c'est quelqu'un qui a quand même d'assez bonnes mains, capable de tricoter un petit peu pour donner des fausses indications à l'adversaire et être capable de se créer des chances de marquer. Ça, c'est intéressant. Il a quand même un bon coup de patin aussi. Donc, je vous dis, là, surtout à cause de sa taille et son chien, là, je pense que ça va l'aider. Et je ne sais pas pour vous, les gars, là, mais moi, je le regardais jouer, puis même, je regardais son visage. Puis on aurait dit un joueur de 22 ans à travers un joueur de 17 ans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là.
Ah, il a l'air physiquement très, très son apogée. Là. Il n'a pas l'air d'un adolescent qui est encore en train de se développer. Ça a l'air d'un homme, là, ça, effectivement.
C'est un, pour l'avoir vu un peu en Suisse également, c'est un joueur de caractère. Là, on parle de... c'est un joueur qui a joué quand même avec des hommes. Et sur le coup, lors d'un de ces matchs, c'est rare que je fais ça, mais j'ai décidé d'écouter les commentateurs et par hasard, c'était des descripteurs francophones. Puis, là, ils donnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires par rapport à McTavish. J'étais vraiment impressionné. Là, ils sortaient les comparaisons avec Austin Matthews qui avait joué en Suisse. Puis là, c'est pas Matthews du tout. Là. On arrête les comparaisons là. Mais tout simplement pour dire qu'il a marqué les esprits en Suisse par son niveau de compétition et de la façon qu'il était capable de se présenter dans les matchs. Et là, présentement, avec le Canada, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des joueurs de son âge qui ont eu à peu près le même développement en tant que joueur, si on veut. Puis là, ce signal davantage est capable de gagner des batailles. Donc ça, c'est intéressant. De là à dire qu'il a vraiment, vraiment monté au point de se retrouver dans le top 10, non.
Non.
Mais ça en fait un tour quand même intéressant.
Oui, c'est sûr, ouais.
Le joueur que j'ai trouvé le plus dominant face à la Suisse lors de samedi, là, le match de samedi, c'est Francesco Pinelli. Il était partout sur la patinoire. Il a marqué à deux occasions, même fait une excellente passe là, à l'avantage numérique à Brendan Hartman dans l'enclave. Pinelli, la plupart des gens le voyaient un peu plus tard. Certains le classaient même en deuxième ronde. Moi, c'est un joueur qui m'a marqué, surtout quand on considère que le Canada a énormément de talent dans sa formation. Mm-hmm. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a su tirer avantage de ce tournoi-là pour augmenter sa valeur.
Oui, c'est intéressant. On en parlait là, parce que lui, c'est un gars qui était censé jouer en Ontario, là, si je ne m'abuse, puis il n'a pas pu jouer. Il a joué un peu en Europe. Mais c'est un des joueurs que le tournoi U18, ben, évidemment, peut nuire, mais peut aussi beaucoup aider parce qu'il n'a pas eu l'occasion de beaucoup se faire voir. Donc, sans dire que il y avait un énorme hype autour de lui avant le tournoi, je suis sûr que les recruteurs, ils l'avaient très haut dans leur calepin de notes parce qu'ils avaient hâte de le voir jouer.
Moi, il y a une... Puis moi, ça m'a impressionné son lancer. Là, c'est pas quelque chose que j'avais vu beaucoup lors de ses matchs en Slovénie. Mais je vais vous avouer qu'il y a une petite chose qui m'a dérangé. Son sens du hockey, là, justement, sa vision de jeu m'a peut-être un petit peu dérangé. Et j'ai pas vu le match contre la Suisse nécessairement. J'ai vu les faits saillants, mais pas le match en profondeur. C'est le seul match que j'ai pas vu du Canada. Mais pour les autres matchs que j'ai vus, je trouvais qu'il avait tendance à... Tu sais, dans le cas de Gunter, je disais prendre des décisions rapidement avec la rondelle, mais encore faut-il que tes décisions soient bonnes. Et là, il avait tendance à précipiter les choses, puis ça faisait des passes à la vedelette qui se transformaient en revirement. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a peut-être un peu dérangé et qui... ben, je suis peut-être la raison pour laquelle je vais peut-être être moins enchanté que d'autres, là. Mais quoi que l'en soit, son niveau de compétition est très, très bon et ça en fait un joueur intéressant pour, selon moi, pour la fin du premier tour parce que c'est vraiment un des, sinon, le joueur le plus travaillant et compétitif que tu peux retrouver sur une patinoire.
Un joueur, moi, qui m'a déçu, c'est Brendan Hartman. Bien des gens le classaient en première ronde. Il m'a pas impressionné, moi, sur la patinoire. C'est un joueur, je sais peut-être moi qui est dans le champ, mais j'ai pas l'impression qu'il génère tant que ça sur la glace. Et... Est-ce que je suis à côté de la traque?
Ben, moi, je trouve un petit peu. je n'ai pas détesté son jeu. Moi, c'est un... Puis là, c'est sûr que c'est facile de prendre le terme Brendan Gallagher pour décrire son jeu, mais lui, c'est un petit peu ça, je trouve. C'est un joueur qui a du chien qui se présente devant le filet, puis j'apprends à découvrir, là, en Suisse, c'était peut-être moins le cas, mais j'apprends à découvrir qu'il y a peut-être des sens offensifs un peu plus élevés que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, lui, dans mes listes, c'est peut-être quelqu'un qui va monter un petit peu, là, puis... Non, il n'est pas nécessairement mauvais. Au niveau de sa vision de jeu, là, j'aime davantage ce que j'ai vu depuis le début du tournoi que j'avais pu voir en Suisse. Là. Quand même de quoi d'intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nick.
Ben, moi, il m'a laissé pas mal indifférent, là, je te dirais. Okay. Pour être bien honnête, là, je vais être bien franc avec vous. Je veux pas dire n'importe quoi. Hein. Tu sais, c'est d'un joueur que j'ai peut-être moins remarqué sur la glace. Là. Je ne veux pas inventer des choses non plus.
Non, mais ça donne un bon point de vue. C'est pas pour rien que je pose la question. C'est qu'on a tous des points de vue différents. Puis après ça, ben, ça permet à nos auditeurs, ou peu importe, de se
faire... Ouais, absolument. Absolument.
Non, exact. Mais c'est ça. Il y a peut-être certaines subtilités dans son jeu qui t'a plus marqué, Marky. Moi, personnellement, faut dire, mettons, on regarde le match de Coffey avec le Canadien. quand Caulfield est sur la glace, je ne fais pratiquement que suivre Caulfield des yeux. Bon, mais quand tu regardes l'équipe canadienne des moins de 18 ans, tu ne peux pas t'attarder seulement à un seul joueur. Donc, moi, ce n'est pas un joueur qui a nécessairement ressorti du lot. Je ne pas nécessairement dire que c'est un mauvais joueur, mais ce n'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné.
Mais ça, tu as raison, là, l'évaluation devient différente à ce niveau-là parce que au lieu d'avoir un joueur à suivre et là, tu fais seulement surveiller son jeu défensif, etc., là, tu dois te préoccuper sur les 20 joueurs. Ailleurs, il y a des éléments que tu as peut-être moins le temps de voir. Je vais être honnête, avec le Canada présentement, j'ai peut-être moins vu le jeu défensif de certains joueurs. Il y en a que je l'ai vu, le Wyatt Johnston fait un bon travail en désavantage numérique. Mais il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps de m'attarder.
Ouais. Ben, c'est ça. T'sais, avant un match, là, j'imprime tout le temps ma petite feuille de line-up avec tous les numéros pour mieux suivre les joueurs, etc. T'sais, surtout ceux que je connais moins, ça m'aide. Et j'essaie d'avoir au moins une note pour chaque joueur. Et vois-tu, ce joueur-là, il m'a pas. Et je veux dire, je ne l'ai pas vraiment remarqué sur la patinoire. Puis c'est peut-être difficile parce qu'il y en a des tellement plus talentueux qui monopolisent l'attention. Fait que le scouting devient un peu plus ardu à ce moment-là.
Un joueur que j'ai remarqué, puis je pense que c'était plutôt évident, là, Carson Coolmans, non seulement il est très bon, mais en plus, il est physique, il est capable de fermer la ligne bleue, fait des bonnes mises en échec au centre de la glace. C'était peut-être un défenseur qu'on voit un peu moins maintenant dans la Ligue nationale, mais qui a encore son utilité. Moi, je trouve que c'est un joueur qui s'est démarqué pour l'équipe canadienne.
Mais moi, tu vois, puis là, je sais pas si vous avez vu, les gars.
Ouais.
Mais moi, tu vois, la semaine dernière, je vous avais dit que Coolman, c'était un défenseur que je surveillais parce que je l'adorais. Puis je vais t'en être avec toi, il m'a déçu un peu. Je m'attendais à en voir davantage. Au niveau offensif, là, de le voir transporter la rondelle énormément, là, je ne l'ai pas nécessairement vu faire ça. J'aurais aimé en voir davantage offensivement. Et je vais te dire un détail. Une chose qui m'a peut-être dérangé un peu, il a été bon contre le Bélarus, il a été très bon. Il a fait un très bon travail. Contre la Suède, j'ai trouvé qu'il a peut-être été un peu plus effacé. Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir.
Ben, est-ce que c'était pas plus une question de rôle? Moi, c'est ça que je me demande aussi, là.
Ouais, ben j'ai l'impression que c'est peut-être ça également. Là.
Brand moi, c'est Clark, ça que j'ai vu, en fait, là, parce que j'ai pas détesté son jeu. Moi, je rejoins plus Deso là-dessus.
Ouais, mais t'as pas tort. Là. Moi, je dis que je l'ai pas nécessairement aimé, mais je suis d'accord avec toi. J'ai tendance à être d'accord là-dessus. J'ai l'impression que Brand Clark a le poste de premier défenseur à droite. Et là, ça fait en sorte que Coleman's a moins d'opportunités, si tu veux, parce qu'il a moins de temps de jeu. Il joue avec des joueurs moins talentueux. Et t'as raison, les flashs que j'ai bien aimés de lui, c'est en avantage numérique qu'il l'utilisait à gauche pour le lancer, avec Clark qui était justement à droite. Ça, c'est fort possible.
Mais défensivement, je trouve qu'il fait un job très, très propre et très physique. Puis le match contre la Suède, ça se compte sur les doigts d'une main les fois que la Suède est rentrée dans la zone canadienne. Donc, je pense que peut-être qu'il était un peu moins flashy, mais un peu comme un joueur de ligne offensive au football. Si on n'entend pas parler de lui, c'est parce qu'il fait un bon travail. Donc moi, je pense que Coolman, OK, peut-être que niveau offensif peut nous laisser sur notre appétit, mais je trouve que défensivement, il était responsable. Enfin, moi, personnellement, c'est pas un joueur que j'ai détesté. Ouais. Là,
je sais que c'est rendu beaucoup à mode, là, les espèces de jokers, là, les petits défenseurs, les puck movers, mais moi, je crois encore beaucoup aux défenseurs dans le moule de Coolman, honnêtement.
Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression, les gars, ce qui va arriver dans les deux ou trois prochaines années, là, on a parlé des jockeys, les petits défenseurs qui bougent la rondelle.
Puis je sais qu'ils sont à la mode, puis c'est le fun d'en avoir un dans ton équipe, mais tu peux pas juste avoir des jockeys. Il faut que tu as besoin d'une complémentarité dans ta formation, dans ta brigade défensive. Là.
Mais c'est comme si on avait droit à un changement de garde dans la Ligue nationale. Il y a 9 ou 10 ans, tu as eu des défenseurs comme John Klingberg, comme Sami Vatanen qui se sont développés, qui étaient justement des jockeys. Et là, tu te
trouvais... Klingberg était plus grand, lui, peut-être. Là. Il avait peut-être plus un reach. Il était peut-être plus imposant le long des bandes. Même si c'est un gringalet, là, c'est un grand mince. Là.
Non, je sais, mais mon point, c'est davantage que tu avais ces défenseurs-là qui avaient la cote, des Samuel Girard, etc. Là, se retrouvaient... dans la NH avait du succès. Les gros défenseurs, eux, parce qu'ils étaient davantage tentés de se baser sur leur taille, avaient peut-être moins de coups de patin. Mais là, on le sait, les gars, depuis les dernières années, le coup de patin a pris énormément d'importance dans la LNH, plus que jamais. Mais pensez-vous, les gars, les défenseurs ou les attaquants de 6 pieds 4 pouces qui ont 14, 15 ou 16 ans en ce moment, n'ont pas vu ça, puis ils disent pas, il ne faut pas améliorer notre coup de patin.
Je pense que tu marques un point. Puis c'est pas juste que ça a pris plus d'importance. Je pense que les technologies ont évolué, puis les entraîneurs sont devenus beaucoup plus spécialisés aussi. Je regarde les Maple Leafs de Toronto, là, ils ont un département complet de développement. Toutes les équipes ont un département de développement des joueurs, mais eux, ils ont quasiment un spécialiste pour toutes les facettes du jeu. Là. Coup de patin, tir, maniement de rondelle. Ils ont un spécialiste pour couvrir toutes les facettes. Alors, c'est ça qui devient de plus en plus intéressant. Tu n'as pas un entraîneur d'habileté qui englobe toutes les habiletés maintenant. Tu as vraiment maintenant des entraîneurs de coups de patin qui vont te suivre à la trace puis qui vont essayer de corriger la mécanique de ton coup de patin jusqu'au dernier détail. Là.
Exact. Puis là, pour revenir à la situation des défenseurs, c'est que là, en travaillant ces aspects-là au niveau du patin, etc., ben là, tu te retrouves avec les défenseurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Là, j'ai parlé de One Power tout à l'heure. Là, c'est des défenseurs avec des excellents coups de patin. Donc là, j'ai tendance à penser que dans les 2 ou 3 prochaines années, il va peut-être avoir un inversement de tendance. Il va avoir tendance à prendre des défenseurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Coleman, en a un bon exemple. Là, c'est un défenseur de 6 pieds 2 pouces avec un bon coup de patin. Ça va peut-être être eux qui vont prendre davantage la place. Il va peut-être falloir baisser nos attentes légèrement. Là, je ne veux pas dire les exclure complètement, mais baisser nos attentes peut-être un petit peu à l'endroit des défenseurs de 5 pieds 9 ou 5 pieds.
Je suis tellement d'accord avec toi. Avec toi parce qu'on dirait que maintenant, chaque fois qu'on voit un petit défenseur offensif, on se dit « Ah, c'est le prochain Quinn Hughes ». Mais je ne sais pas à quel point les gens réalisent qu'un Quinn Hughes, là, c'est une denrée rare aussi. Là, je veux dire, un talent de main, on n'en voit pas à tous les jours. Alors, je veux dire, à la fin de la journée, tu auras tout le temps besoin d'un gros défenseur pour stopper le cycle, pour séparer le joueur de la rondelle, pour récupérer la rondelle dans le fond du territoire, pour faire le ménage devant le filet. Faire cette tâche ingrate-là, c'est pas vrai qu'on peut juste... je sais que Carl Dubus, à un certain moment, pensait qu'il pouvait juste déployer des défenseurs offensifs capables de relancer les jeux dans sa formation. Et même Carl Dubus a changé son fusil d'épaule là-dessus. Il est allé chercher des Jake Muzzin. Il est allé chercher un gars comme Zach Bogosian. Alors, je veux dire, tout le monde s'adapte un peu en ce moment et on réalise que ces gros défenseurs-là ont encore leur impact.
Un joueur qui a son patin, tu voulais en enchérir, Marky?
Ben, je voulais seulement donner un exemple. Là, en ce moment, au Mondial des moins 18 ans, il y a un défenseur que je sais que certaines personnes aiment bien. Là, c'est un dénommé Emo Salmi du côté de la Finlande. Puis les gens l'aiment justement pour ces raisons-là. Il bouge très, très bien la rondelle, sa vitesse gauche-droite, de manière latérale, est excellente. Puis tu vois, moi, la chose qui me dérange, c'est justement ça. Oui, il bouge bien la rondelle, mais il n'y a peut-être pas nécessairement de sens offensif. Son intelligence lorsqu'il se retrouve en zone adverse, je ne trouve pas nécessairement que ça apporte beaucoup de chances de marquer. V'là 7 ou 8 ans, même moi, probablement, que Emo Salmi, je l'aurais préféré davantage qu'en ce moment. Mais c'est seulement que les tendances changent et évoluent. Là. C'est juste normal, ouais. Là.
Un joueur qui a beaucoup de patins avec l'équipe canadienne, c'est pas un défenseur, là, c'est un ailier de 5 pieds 8 pouces, c'est Logan Stankoven. Il patine, il a des bonnes mains, je le trouve quand même efficace sur la glace. Est-ce que vous avez aimé son jeu pour l'équipe canadienne?
Moi, j'ai aimé son jeu, moi, pour ma part.
Oui, non, ben honnêtement, là, je m'arrange avec vous, les gars. J'ai décidé d'arrêter.
J'entends
la hache de guerre, là. Non, mais honnêtement, avec le Canada présentement, c'est vraiment le joueur qui m'impressionne le plus. J'avais hâte de le voir 5 pieds 8 pouces. Je me souviens d'avoir vu des séquences de lui à 16 ans. Puis c'est sûr qu'entre 16 et 17, là, il y a un monde de différence. Là. Mais son niveau de compétition est très vraiment bon. Il a une bonne vision de jeu, se présente au filet. Puis honnêtement, il est très complet et travaille fort. Là. J'ai vraiment été impressionné. Puis j'ai hâte de le voir dans les rondes éliminatoires parce que j'ai l'impression que ce genre de joueur-là pourrait ressortir davantage avec une compétition qui est plus relevée, avec des matchs qui veulent plus dire quelque chose, finalement.
On en a parlé un peu plus tôt dans le podcast. C'est un joueur, évidemment, qu'on allait surveiller parce qu'il n'a que 15 ans. Connor Bedard est là dans le tournoi et il réussit à se démarquer malgré son petit âge, son jeune âge, pas son petit âge. Un but, 4 points depuis le début du tournoi. Nick, est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois de Connor Bedard?
Absolument, et je pense qu'il montre exactement ce qu'il montrait justement dans la WHL, franchement. Il est tellement efficace comme joueur de centre, pas juste parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il manipule bien la rondelle, parce qu'il a un bon sens du jeu, mais je trouve que même en zone défensive, il va bien appuyer ses défenseurs. Il a une game vraiment complète, et c'est pas normal de voir un joueur de 15 ans jouer de façon aussi mature. J'ai jamais vu ça, honnêtement, les gars.
Alors, écoutez les gars, on parlait de Shane Wright tout à l'heure. Je vais attendre la fin du tournoi avant d'être affirmatif sur ce que je vais dire. Là. Mais j'ai l'impression que là, le prochain McDavid, là, la prochaine super vedette de la Ligue nationale, ça pourrait être Connor Bedard. Parce que son jeu, comme Nick vient de le dire, son jeu défensif est extrêmement raffiné. Il a un excellent lancer. Et là, on parle d'un joueur qu'on est en train de regarder à 15 ans. Ça veut dire qu'il a encore 2 ans de développement avant qu'il soit repêché. Son coup de patin va s'améliorer. Et là, pour... Je m'excuse pour les gardiens adverses, mais son lancer va s'améliorer. Il va être plus physique.
Il va être plus mature physiquement parce qu'en ce moment, il fait tout ça à 5 pieds 9. Là. Et il n'y a rien exclu qu'il pourrait être 6 pieds 1 dans 2 ans.
Mais oui, on oublie, le gars a 15 ans. C'est
ouais, exact.
Toutes les choses qu'il doit travailler présentement, c'est des choses que tu travailles avec l'âge parce que tu prends de la masse musculaire. Donc, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça va être à 17 ans, son année de repêchage. Et... J'ai hâte de voir. Ça risque d'être une des très grosses saisons juniors qu'on va voir.
Et de plus en plus, je trouve que l'espèce de tu sais, il y a une espèce de rivalité entre lui et Mishkov, là, mais l'espèce de parallèle avec la rivalité entre Crosby et Ovechkin devient de plus en plus pertinent parce que on voit Mishkov, là, il a été encore plus spectaculaire que Bedard. Est-ce que son jeu...
Mais Mishkov a 9 buts depuis le début du tournoi.
Il est électrisant. Là. C'est une machine à produire des faits saillants pour les bulletins de nouvelles, ce gars-là. Mais de là à dire qu'il est aussi efficace sur une patinoire en ce moment, aussi complet que Bedard, ben pas du tout. Alors, j'adore honnêtement l'espèce de comparaison qu'on fait parce qu'elle avait été tellement intéressante à suivre, cette espèce de rivalité-là entre Crosby et Ovechkin.
Non, mais sans ombre d'un doute, le repêchage de 2023 a lieu demain matin. Vous prenez Connor Bedard premier.
Ah, absolument. Absolument.
Sans hésiter. Mais Mishkov, il y a 11 points, mais, dont 9 buts, là, mais il y a 4 buts contre l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas une équipe avec un Team Studio cette année. Là, ils ont beaucoup plus de difficultés. Ça, c'est un. Puis deux, comme Nick vient de le mentionner, là, oui, il a un excellent lancé, puis c'est pratiquement ce qui a fait en sorte qu'il a marqué des buts. Mais dans les autres facettes du jeu, là, mettons, dans les coins, puis il est capable de se débrouiller. Mais je veux seulement dire qu'il n'est pas au même niveau que Connor Bedard. Là.
Ouais.
Marky, tu m'as confié avant le début du podcast que ton coup de cœur du tournoi, c'est un Russe. C'est un joueur qui évolue avec Matvei Mishkov.
Ouais, mais pas nécessairement un coup de cœur. Je pense qu'il y a des joueurs chez l'équipe finlandaise que je préfère. Mais un joueur qui m'a agréablement surpris et que je vais probablement monter dans mes listes, c'est le centre Fedor Svechkov. Et pour faire un petit portrait là, de Fedor Svechkov, lui, il a passé pratiquement la majorité de la saison du côté de la VHL. La VHL, c'est l'équivalent de la Ligue américaine, mais pour la KHL. Et là, pensez-y, les gars, c'est un joueur de 17 ans qui joue quand même contre des hommes. Donc là, tu regardais ses statistiques, c'est 15 points en 39 rencontres. Puis tu le regardais jouer, son jeu offensif ressortait peut-être un peu moins. Défensivement, il était vraiment écœurant, les gars. Même à 17 ans, c'était quelqu'un qui jouait super bien. Donc là, je me demandais simplement, il est devant du calibre supérieur, il est devant des hommes. C'est peut-être normal que son jeu offensif ressorte moins. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au championnat mondial des moins de 18 ans. Et jusqu'à maintenant, je suis vraiment impressionné. Vraiment, sa vision de jeu ressort davantage parce que les joueurs sont moins talentueux, ont plus le temps de faire ses jeux. Il est super intelligent, il repère des joueurs autour des filets là, super bien. Et comme je l'ai mentionné, il est super bon défensivement, il est toujours très bien placé. Puis honnêtement, je le regarde jouer. Puis je le sais, là, on a tendance à comparer tout le monde à Patrice Bergeron aussitôt qu'il est bon défensivement. Mais j'ai tendance à penser qu'il peut avoir une espèce de rôle dans la LNH un peu semblable là, à des Bergerons ou des joueurs comme ça. Là. J'ai hâte de voir, ça m'a impressionné.
Un joueur que j'ai hâte de vous entendre, là, parce que moi, il m'a tapé dans l'œil, comme on dit, c'est du côté de la Suède, c'est Fabian Liesel, a marqué 2 superbes buts, a créé 2 superbes buts avec des belles feintes, des montées en porte-pièce, a déjoué des adversaires. Bon, on le sait, la Suède, le moitié, tu l'as dit, peut-être qu'ils sont dans un pool un peu plus faible, mais est-ce que tu trouves tout de même qu'ils se démarquent depuis le début du tournoi?
J'ai pas détesté ce que j'ai vu, non, tout à fait. Là, même contre le Canada, là, on le sait, là, 12-1, c'est inacceptable. Il y avait pratiquement de la difficulté à entrer dans la zone, mais tu étais quand même capable de voir que Fabian Lissel avait un certain sens offensif, qu'il voulait transporter la rondelle, qu'il voulait fabriquer des jeux. Moi, je l'aime peut-être davantage que certains recruteurs ou experts qu'il place peut-être un peu plus bas, peut-être en raison de sa taille. Là, il faudrait que je revérifie, là. Mais moi, je n'ai pas nécessairement détesté. J'ai hâte de voir, lors des quarts de finale, qu'est-ce que ça peut donner contre des adversaires supérieurs. Je les affronte les Américains en quart de finale plus tard ce soir. Mais là, ça va être intéressant parce qu'il y a quand même des défenseurs. Aiden Reschuk, notamment, est un bon défenseur défensif du côté des Américains. Là. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de faire face à ces joueurs-là.
Parce que les recruteurs, ça doit être un cauchemar en ce moment pour eux, évaluer les joueurs de la Suède. Parce que, comme tu l'as dit, jusqu'à maintenant, ils l'ont joué dans un groupe assez faible. Et ben, le match déterminant qu'ils ont joué contre une bonne équipe, ben, c'est celui contre le Canada. Et c'est tout le temps difficile de scatter un match quand ben, c'est un match qui est tellement à sens unique. Oui, il y a des choses que tu peux retenir. Bon, qui continue de compétitionner alors que le score est de 10-1 en ta défaveur? T'sais, je veux dire, tu peux regarder des petites choses. Le body language des joueurs, mais sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile de les évaluer adéquatement. Alors ça, là, on va entrer vraiment dans la portion déterminante là, pour les joueurs suédois.
Et ça, tu as un excellent point parce que Lissel, de mémoire, quand le pointage est devenu élevé, je pense qu'on l'a moins vu. Là, c'est là que ça va être intéressant de voir ce qu'il va apporter lorsque le calibre va être plus relevé. À l'inverse, il y a un joueur comme Isaac Rosen, qui est un attaquant avec un excellent coup de patin. Lui, on l'a vu montrer quelques flashs, même si le pointage était élevé. Donc, ça va être intéressant de suivre.
J'espère qu'on sera d'accord sur celle-là, Marky, parce que moi, c'est un joueur qui me traite déçu. On en a parlé la semaine dernière. Là, on plaçait beaucoup d'espoir là, en Stanislav Zvozil. Malheureusement, le défenseur tchèque n'a pas été capable de transporter son équipe, n'a toujours pas ramassé de points depuis le début du tournoi en 4 rencontres. Les Tchèques qui comptent seulement qu'une seule victoire. Je le sais que c'est un défenseur, je le sais que c'est pas une équipe qui est très forte, mais je m'attendais quand même à plus parce d'un joueur qui a quand même de l'expérience là, des grands événements.
Là. Ouais, mais ça va être intéressant à suivre là, sans l'avoir suivi de façon exhaustive. Là, j'ai vu un peu les points qu'il a rapportés et surtout les prestations de l'équipe tchèque. Ça a été assez décevant. Là. Ils ont été dominés, si je ne me trompe pas, par la Russie. Là. C'est sûr qu'on s'attend à plus. Et lorsqu'on parlait de joueurs qui pourraient avoir voir leur code baisser en prestation, ça peut en être un. Tu t'attends à voir un défenseur comme ça qui va être archi-dominant à un calibre inférieur et lui, ne l'est pas nécessairement. Moi, je dirais simplement qu'on va simplement voir Zvozil comme il est. C'est-à-dire un défenseur qui bouge bien la rondelle, qui a certains bons instincts. Mais offensivement, j'ai toujours trouvé qu'il m'en laissait à désirer. C'est pourquoi j'ai toujours placé fin de premier tour là, vers le 25, 26 ou 27e rang. Selon moi, ça ne change pas parce qu'au niveau offensif, je ne voyais pas nécessairement grand-chose. Et là, si l'équipe autour de lui est moins bonne, bien, je pense que c'est tout simplement normal à quelque part. Qu'il ressorte un peu moins.
Ouais, peut-être qu'on a été un peu trop enthousiaste en raison du fait que lui, il a joué dans le gros tournoi, là, dans le championnat mondial junior avant tout le monde. Mais je veux dire, oui, c'est une chose. Là, il avait peut-être cette maturité-là dans son jeu, mais est-ce que ça veut dire que son potentiel est hors norme à cause de ça? Ben, il y a une distinction à faire.
Faut pas oublier, les gars, que ces équipes-là, ils ont moins de talent. C'est pas le Canada. Mm-hmm. Les joueurs tchèques, c'est plus facile quand tu as 16 ou 17 ans et tu te signales un peu. De faire ta place. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple il y a quelques années avec la Slovaquie, qui n'est pas au tournoi, là, ça c'est surprenant, mais la Slovaquie, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer un peu ce joueur-là. Martin Ferrari, là, c'est un défenseur qui appartient aux Capitals de Washington. Il a joué quelques matchs cette saison. Mais lui, c'est un Slovaque. Je viens de le mentionner. Les Slovaques, ça ne peut pas être joueur de premier plan. Mais lui, au mondial junior des moins de 20 ans, ben, il avait une place au niveau de la Slovaquie. Même, il avait un rôle assez important. Là. Et ça n'a pas empêché Ferrari d'être repêché au deuxième tour. Et là, il y a eu des matchs dans la LNH, mais un défenseur à caractère défensif, c'est pas un gars qui va transporter l'attaque, qui va gagner un trophée Norris un jour. C'est impossible. Mais c'est simplement pour donner une idée de ramener les choses dans leur contexte. Si c'était un Canadien, il n'aurait jamais joué avec l'équipe canadienne junior des moins de 20 ans à 17 ans, c'est tout simplement qu'avec la Slovaquie, ben, il y a plus d'opportunités, tout simplement.
Le tournoi se poursuit aujourd'hui, dans quelques minutes, là, au moment qu'on enregistre ce podcast. Ce sera la Russie contre le Bélarus. Le Canada affronte les Tchèques dès 16h. Il y aura deux autres quarts de finale un peu plus tard, là, au courant de la soirée. Messieurs, on en a parlé beaucoup. Stutzle, Byfield, Lafrenière, qui allait sortir 1-2-3. Ben, finalement, Byfield est sorti avec les Kings de Los Angeles. Il a disputé ses premiers matchs avec les Kings. Ça l'a bien été dans son premier match. Je l'ai trouvé très bon. 4 lancés au filet. J'ai pas eu la chance de voir les deux autres rencontres. Et il a semblé plus effacé. Si je me fie seulement à ses chiffres, il n'a qu'un seul tir en deux parties. Mais ça reste un joueur qui va apprendre à jouer dans la Ligue nationale et qui devrait être efficace. Et il est très gros. Ça se voit rapidement sur la patinoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de Byfield avec les Kings?
Ben, Byfield, c'est ses qualités athlétiques. Là. S'il réussit à mettre tout ensemble, là, faire quelque chose, mettre un tout cohérent, là, ben, je pense que ça va être un joueur qui est qui va être très dangereux dans la Ligue nationale parce que, écoute, il a de bonnes habiletés individuelles. La question, ça a tout le temps été son sens du jeu. Il a une bonne vision du jeu, mais c'est ses décisions parfois avec la rondelle. Et c'est, parfois, il réussit pas à percer ses centres, il est un peu plus effacé offensivement.
Mais c'est intéressant dans son cas parce que je disais avant de le regarder jouer, les commentaires de son entraîneur avec le Ring d'Ontario, le John Roblevski, là, c'est comme ça qu'on le prononce. John Roblevski, qui est l'ancien entraîneur-chef du programme américain des moins de 18 ans, il questionnait un peu à savoir s'il était prêt pour la LNH. Et puis lui disait honnêtement son jeu. Dans les coins de patinoire pour travailler avec son bâton, il s'est vraiment amélioré là-dessus.
Exact, ouais.
Ça devient un joueur de Ligue nationale, honnêtement. Inquiétez-vous pas pour lui, il va être efficace. Puis honnêtement, je suis d'accord. C'est ce que j'ai vu, là, son implication dans les coins a peut-être été un petit peu meilleure que ce qu'on avait vu dans les rangs juniors dans les dernières années. Maintenant, ce qui continue de me déranger, c'est que l'intensité n'est pas toujours là. Moi, j'ai regardé le deuxième match, là, la victoire de 2-1. L'intensité n'était pas toujours là et je trouve que son sens du jeu sur la patinoire n'est pas toujours à point. Il jouait avec Adrian Kempe. Adrian Kempe était celui qui avait le rôle de transporter la rondelle en zone adverse. Puis souvent, Byfield se plaçait à des endroits où l'option de passe n'était pas vraiment là. Puis résultat, Kempe perdait la rondelle et ça se transformait en revirement. C'est ça qui me dérange un peu. Son implication, là, s'il peut être impliqué tous les matchs, là, ça va devenir un excellent joueur, mais malheureusement, si ça continue comme ça se passe en ce moment, j'avais déjà mentionné Pavel Zaha, là, mais malheureusement, c'est peut-être qu'il se dessine.
Ah ouais, hein, quand même. OK.
Byfield tentera de masser son premier point dans la Ligue nationale ce soir face aux Coyotes de l'Arizona. Marquis, en terminant très rapidement, Igor Shinakov a signé son contrat d'entrée dans la LNH, un choix qui avait surpris plus d'une personne de la part des Blue Jackets.
Mais je me suis rafraîchi la mémoire un peu en allant voir qu'est-ce que les recruteurs pensaient de lui. Puis là, je me suis souvenu là, des sommités dans le monde du recrutement. Là. Sam Cosentino de Sportsnet, lorsque le choix a sorti, il fouillait dans ses feuilles, il ne savait pas trop.
Corey Perlman aussi avait été surpris.
Exact. Je pense que l'expert de Hockey News, Ryan Kennedy, avait dit « Je ne l'ai jamais vu jouer, je ne le connais pas du tout ». Là, on parle de l'expert repêchage.
On parle d'un joueur qui est sorti 21e en première ronde.
Ça veut dire que les Blue Jackets font leur travail en Moses en Europe. Là.
Ils font leur travail, puis c'est pour ça, les gars. On fera pas de cachette, on est tous tombés au bas de notre chaise lorsqu'on a vu ça. Là. Moi, le premier, et je le connaissais, Shinakov. Je l'avais déjà vu il y a 2 ans au Mondial des moins de 18 ans avec la Russie. Montrait de bon flash, mais sans plus. Là. C'était davantage les Podkolzin ou les Rodion Amirov qui ressortaient. C'était pas nécessairement Shinakov. Même s'il montrait de belles choses. Donc là, tu dis « Ah, entre 4 et 7, ça peut être intéressant. » Puis là, tu te retrouves un an plus tard, ben là, tu deviens un joueur de 18 ans.
Ben, c'est ça. Mais lui, ce qui lui avait vraiment permis de se démarquer, c'est qu'au moment où il a été sélectionné par les Blue Jackets, il connaissait un excellent début de saison dans la KHL. Et c'est le fait que le repêchage avait été repoussé et que, ben, il y avait une espèce de situation exceptionnelle où les gars ont commis une autre saison qui s'amorçait alors que le repêchage se déroulait. Et ça, ça avait souri à plusieurs joueurs, ben, surtout dans la KHL, parce qu'il y avait eu des éclosions de COVID-19 en début de saison et ça avait donné la chance à plusieurs jeunes joueurs d'avoir plus de temps de jeu qu'ils n'auraient eu habituellement. Et même Moukhamadoulin, ça lui avait souri cette situation-là. Shinnecock, honnêtement, c'est son release, c'est son tir qui le démarque des autres. Même que Bob Hartley a dit qu'il avait un tir qui était semblable à celui de Joe Sakic, là, c'est pas peu dire.
Non, tout à fait, tout à fait. Puis j'ai regardé un petit peu, parce que c'est ça qui est intéressant. Il a quand même gagné la Coupe Gagarine à 19 ans. Là. Mm. C'est jamais bon, c'est jamais mauvais de gagner un titre majeur. Mm-hmm. Et surtout avec un Bob Hartley là, qui a travaillé avec plusieurs vedettes. Là. On a parlé mm-hmm. de Sakic, Yakovalchuk, Marianosa. C'est tous des joueurs qui ont eu du succès avec Bob Hartley.
Absolument.
C'est intéressant. Et ce que j'ai pu voir durant la finale, n'a pas nécessairement produit, là, mais honnêtement, il est calibre de la Ligue nationale. Il est capable de travailler dans les coins. Son gabarit est intéressant. Il est capable de gagner plusieurs batailles. Et comme Nick vient de le dire, il a un très bon lancer.
Ouais.
Donc, tout simplement, avec... puis il y a tout le ouais. reste, là, mais seulement avec son lancer, s'il est capable de ouais. faire peur aux gardiens adverses, ça peut devenir intéressant.
Mais oui, les Jackets sont lanés, mais encore faut-il qu'ils réussissent à le garder, là, même s'il va devenir un joueur autonome ouais. avec compensation. Ça va être compliqué en raison de tout ce qui s'est passé dans cette saga. Mais les Jackets ont besoin de joueurs qui font la différence offensivement présentement et qui peuvent marquer des buts. Alors, Shinnecock amène vraiment, comble vraiment un besoin à cette organisation-là. Et je doute que ce joueur-là sera développé par John Tortorella. Moi.
Mais c'est ça que j'allais dire, là. Puis là, je suis d'accord avec Nick, là, probablement mm-hmm. que John Tortorella, peut-être que ça tire un peu à sa fin. Mais supposons qu'il reste. Je pense que Vegas Shinnecock est davantage un joueur qui va plaire à Tortorella par
ouais.
son intensité, parce qu'il apporte dans les coins,
ouais.
qu'un liné que l'effort n'est pas toujours là, qui peut jouer parfois un match sur quatre, si on veut.
Absolument.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette autre belle édition du podcast La Relève. Plus de 70 minutes de connaissances hockey sur les jeunes prospects. Je vous rappelle que les quarts de finale sont aujourd'hui pour le tournoi des moins de 18 ans. Donc, on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine.
Okay. On suit ça avec intérêt.
Oui, on suit ça avec intérêt. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se reparle. Ciao.
Ciao.